me souviens d'ailleurs du regard dépité de ma mère quand je lui avais montré tout fier mon premier programme, qui te demandait quel est ton nom, Benoît. Bonjour Benoît. Et en gros, pendant que mes potes ils s'envoyaient des coups en soirée étudiant, moi je taffais quoi. Tu vois, il y a aussi ce truc aussi, je vois des jeunes arriver sur le marché, les gars ils arrivent, ils réclament des salaires 34, 36K, 38K, 40K annuels. Les gars, vous savez rien faire, vous réclamez tout ça. Moi je gagnais bien plus que 40K annuels, hein, mais dans ce secteur, moi les premiers projets que j'ai fait, j'ai travaillé pour rien. En tout cas, pas pour de l'argent. Je me rappelle mes collègues qui comprenaient pas que je me tape des nuits blanches et des jours fériés à bosser pour ma start-up.
Bienvenue sur le podcast Développeur Libre, dans lequel j'accueille chaque semaine une personne inspirante qui est devenue libre grâce au code. Alors bien sûr, on a chacun notre propre définition de la liberté, et c'est pour ça que dans ce podcast, je reçois aussi bien des entrepreneurs que des digital nomades qui parcourent le monde tout en travaillant, ou des salariés qui se sont construits petit à petit une vie sur mesure pour profiter pleinement et accomplir leurs objectifs en tout genre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît, qui est notamment le créateur du podcast Artisan Développeur, mais qui est surtout un entrepreneur depuis pas mal de temps et qui a bossé sur plein de projets, dont notamment des projets sur la blockchain pour les plus récents. Dans cet épisode, on va parler du parcours de Benoît, certes, mais aussi de toutes les petites actions que vous pouvez mettre en place en tant que développeur junior pour bien commencer votre carrière et trouver un premier job plus rapidement. Et Benoît nous donnera aussi sa vision des choses par rapport à l'incertitude à laquelle on peut faire face quand on est entrepreneur et comment on peut gérer le fait de ne pas avoir la sécurité de l'emploi entre guillemets. Donc si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la plateforme que vous utilisez et à partager cet épisode. Et moi en attendant, je vous laisse apprécier mon échange avec Benoît. Salut Benoît, merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de ton expérience dans un nouvel épisode du podcast. Bah écoute, je te propose de commencer tout de suite. Est-ce qu'on pourrait te présenter rapidement en quelques lignes pour ceux qui nous écoutent? Comment est-ce que tu te définirais aujourd'hui?
Bah d'abord, merci Quentin pour l'invitation, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Comment je me définis aujourd'hui? Je me définis... Il y a tellement de manières, tu vois, c'est la deuxième fois qu'on fait l'intro, mais finalement... À chaque fois que tu vas me poser la question, il y a une nouvelle manière différente qui va apparaître parce que je fais plein de choses. La première chose que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que je me présenterai volontiers comme un développeur freelance Solidity, donc tout ce qui est développement de smart contracts sur la blockchain. Je peux me définir aussi comme entrepreneur, je peux me définir comme infopreneur puisque j'ai un média qui s'appelle Artisan Développeur qui comprend une chaîne YouTube, un podcast et aussi une école de formation. Et du coup, il y a toutes ces casquettes qui se mélangent. C'est pas toujours facile, mais voilà.
Ok, super. Bah, ça va nous donner du contenu autour duquel échanger durant cet épisode. Bah, écoute, ce que je te propose pour bien comprendre un peu qui tu es et pourquoi t'en es arrivé là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts dans le monde du code? Alors, en fonction de comment t'es arrivé dedans, peut-être que ça va remonter à ta période des études ou peut-être que c'est arrivé après. Mais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi t'en es arrivé là, comment t'as découvert le monde du code et peut-être un petit peu par la suite le monde de l'entrepreneuriat?
Bah alors, avec plaisir. Après, quand tu parles du monde du code, c'est à titre professionnel ou... Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à coder à l'âge de 14 ans.
Bah voilà, en fait, à titre professionnel, mais aussi personnel, parce que t'as découvert le code à 14 ans, je suppose peut-être que ça a joué durant les différents choix de carrière et même avant ça, les différents choix d'études.
C'est une bonne question, en fait. Oui, forcément, à un moment donné, mais je crois qu'il y a eu qu'un moment où ça a été décisif. Tu veux, moi, j'ai eu la chance d'avoir un ordi dans la famille assez tôt. Mon père avait acheté un Amstrad CPC 464. Vu ton âge, je suis même pas sûr que tu connaisses ce que c'est cet engin. Donc c'était un des premiers ordi grand public qui sortait avec des cassettes. C'était programme, tu les enregistrais sur des cassettes audio, hein, les mêmes qu'on mettait dans les Walkman. Et j'avais écrit mes premiers programmes en basique là-dessus. Je me souviens d'ailleurs du regard dépité de ma mère quand je lui avais montré tout fier mon premier programme, qui te demandait quel est ton nom, Benoît. Bonjour Benoît. C'était vraiment le Hello World quoi. Et au lycée, je me suis acheté un ordi, mon premier PC, je me rappelle encore de DX266, c'est un truc de ouf. Et donc j'étais vraiment passionné, j'ai toujours beaucoup codé. Au lycée, j'ai eu la chance d'être dans une école aussi où il y avait un prof qui donnait des cours d'info. Alors aujourd'hui, c'est revenu sous la forme d'ANSI, mais c'était, je te parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans. Hein. Et donc, on a eu des cours d'info. Là, je me suis clairement pris, enfin, je me rendais compte que ça me passionnait. Bon, j'ai fait des études supérieures, j'ai attaqué maths sup, maths spé. Et finalement, il y a eu un moment décisif, c'est dans l'école d'ingé, dans le choix de l'école d'ingénieur. Tu vois, pourtant, je m'orientais plutôt vers les télécoms. Je visais plutôt des écoles de télécoms. Et un jour, je suis tombé sur ce qu'a été mon école. Je me suis dit, mais attends, une école d'informatique, une école de maths appliquée à l'informatique et une école d'électronique font ensemble un département informatique. Allez, j'y vais, quoi. Et j'ai kiffé ça. Et dès les bancs de la fac, moi, je traînais, si tu veux, je traînais plus sur les bancs de la junior entreprise que dans les cours, que dans les salles de cours. Et dès les études d'ingénieur, j'ai commencé à bosser, en fait. J'ai commencé à bosser avec la junior entreprise. Ça m'a permis de trouver mes premiers clients. Et puis, de client en client, finalement, j'ai trouvé ma première startup qui a eu le temps de faire up and down pendant mes études. Et juste avant de capoter, un voisin d'incubateur m'a dit « Ah, ça te dit pas de faire ton stage chez nous ?»« Bah ouais, carrément. Allez, go. » Et c'est comme ça que j'ai enquillé dans le monde professionnel.
Ok, super. Donc effectivement, on voit que le code, c'est quelque chose qui est ancré en toi depuis longtemps. Et aussi cet aspect entrepreneuriat, parce que c'est vrai que des fois, on découvre un peu ce monde pendant les études, ou moi, personnellement, j'ai découvert ce monde-là un peu vers la fin de mes études. Et on s'engage dans le monde professionnel, dans un job, on va dire, classique, pour ensuite réfléchir un peu à son projet à côté et se lancer après. Ok, hyper intéressant. Et donc, du coup, est-ce que ça a toujours été clair pour toi que tu voulais faire de l'informatique ton métier, ou pendant longtemps, tu t'es dit, bon, c'est bien rigolo ce truc-là, mais je suis pas sûr qu'on puisse en vivre. Enfin, est-ce que tu avais conscience, en fait, que tout ce que tu faisais, en fait, un peu en tant que jeu, parce que je suppose que pour toi, c'était un jeu, est-ce que tu avais conscience qu'on pouvait en vivre ?
Je suis pas sûr de m'être beaucoup posé cette question jusqu'à ce qu'il y ait un choix à faire, en fait.
Ouais.
Tu vois, le lycée, il n'y avait pas de question d'argent, je jouais beaucoup, je programmais beaucoup. J'étais beaucoup devant l'ordi et je savais juste que ça me passionnait, que ça m'éclatait. Si on doit réfléchir en termes de potentiel économique, j'ai commencé à toucher ça du doigt, je crois, dans mes études. Heureusement pour moi, McDo m'a refusé. Du coup, il a bien fallu que j'aille ailleurs. Et du coup, la première année, j'ai un peu ramé, mais dès la deuxième année, j'ai trouvé mes premières missions. Et là, je crois que j'ai senti le pouvoir, le potentiel économique que ça avait. Et après, je suis rentré. Moi, j'avais une dimension entrepreneuriale forte dès le début. Tu vois, à la sortie de l'école d'ingé, je me suis vraiment posé la question pendant un bon mois. Est-ce que je continue sur un MBA ou est-ce que j'attaque mon premier job, quoi? Et mon premier job, c'était dans une startup. C'est-à-dire que la patronne, quand elle m'a embauché, elle m'a dit, écoute, Benoît, je veux être transparente avec toi. J'ai 6 mois de salaire pour te payer, quoi. Aujourd'hui, je sais pas si je serais capable de te payer plus. Je sais même pas si c'était pas 3 mois qu'elle avait devant elle, en fait. Donc, il y avait quand même déjà la fibre entrepreneuriale au sens de envie de créer un truc, d'un truc qui soit, dont je me sente propriétaire quelque part, ou acteur, en tout cas. Et ça me nourrissait pas mal, quoi, voilà.
Ok.
Et en fait, je me suis jamais, vraiment, j'ai jamais douté du fait que j'allais pouvoir gagner de l'argent avec ça. En fait, je crois pas m'être posé vraiment cette question-là. Autant, tu vois, par exemple, là, en ce moment, depuis quelques mois, j'explore à fond la blockchain et j'ai vraiment eu cette phase de « Ok, mais est-ce que ce truc, on peut vraiment gagner de l'argent avec ?»
Ouais.
Autant à cette époque-là, je crois que je réfléchissais même pas comme ça. En fait, j'y suis allé beaucoup à l'instinct au début.
Bah, et puis après, il y a aussi le fait que, si j'ai bien compris, tu as trouvé tes premières missions freelance alors que tu étais encore étudiant.
Ouais, c'est ça. Ouais. On parlait pas de tout ça à l'époque. À l'époque, moi, je me rappelle, mes premiers trucs, c'était mon premier client, il m'avait embauché par la junior entreprise. Donc ça, c'est cool parce que tu as des régimes fiscaux intéressants où les gars payent peu de charges. Assez rapidement, le gars m'a dit, bon, maintenant, on va travailler en direct. Et je me rappelle faire mes premières notes d'honoraires. On appelait ça des notes d'honoraires. Il n'y avait pas le statut de junior entreprise. Je te parle de ça, on est dans les années 2000, hein, c'est-à-dire 2000-2001, quoi. La Startup Nation n'existait absolument pas. On était en plein boom des startups qui levaient, enfin, en pleine bulle des Nasdaq qui levaient des millions un peu à la one again. Et voilà.
Ok. Et est-ce que donc tu nous dis effectivement que c'était encore un peu le début plus ou moins des juniors entreprises et que ça t'a beaucoup aidé. Est-ce que dans ton école et pour toi c'était quelque chose d'assez exceptionnel de trouver ses premières missions en freelance alors que t'étais encore étudiant ou ça se faisait beaucoup. Enfin, comment tu l'as vécu toi? Est-ce que pour toi t'étais un petit peu à part ou pour toi c'était tout à fait normal?
Alors, c'était pas nouveau, hein. La junior entreprise, elle existait et elle existe depuis, je pense que le concept existait depuis longtemps. Je ne veux pas dire qu'il est aussi vieux que l'école, mais à mon avis, il doit être bien vieux.
D'accord.
Là, il faut voir la junior entreprise dans une école d'ingé comme une plateforme pour te permettre d'accéder à des missions. Il faut imaginer, il y avait pas mal, il n'y avait même pas l'Internet. Quand, enfin, je veux dire, l'Internet venait tout juste d'arriver. La question, c'était comment tu trouves des jobs, comment tu rentres un petit peu dans la vie active avec des entreprises que ça intéresse de faire travailler des jeunes talents pour en gros pour pas cher et que tout ça donne une bonne émulsion quoi. Donc je peux pas vraiment dire que j'ai été très très original là-dedans. J'ai juste pointé ma gueule enfarinée au truc en disant ouais, j'aimerais bien trouver du travail et on m'a dit ben ouais ok, dès qu'il y a une mission on te rappelle. Et donc il a fallu que j'aille plusieurs fois pour qu'ils pensent à moi. Et ça a mis un an, hein, le temps d'arriver et de se faire un peu connaître. Et en gros, pendant que mes potes, ils s'envoyaient des coups en soirée étudiant, moi, je taffais, quoi.
Ouais.
Donc, okay. Dans ce sens-là, oui, j'étais un original. À la rigueur, ce qui a pu être original, c'est qu'à un moment donné, les gars sont venus me dire, bon, déjà, ils m'ont dit, ça serait bien que tu t'impliques dans le bureau. Je dis, bon, je veux bien, mais je veux faire un truc qui me prenne pas de temps parce que j'ai vraiment pas envie de m'occuper de ça. Tu vois, le côté bénévole, c'était pas un truc qui me parlait beaucoup. Et donc, ils ont réussi à me trouver un truc en mode secrétaire parce qu'il fallait vraiment boucler un bureau. Et à un moment donné, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, bon, par contre, on a un souci maintenant, tu fais plus de 20% du chiffre d'affaires de la junior. Ça pose un problème parce que comme tu es membre du bureau, on pourrait croire que tu es favorisé. Mmh. Bon. Tu fous rien au bureau, mais malgré tout, statutairement, tu y es, donc ça pose un souci. Donc, à la rigueur, par rapport à mes potes qui galéraient, moi, j'avais quasiment un petit salaire, en fait. Je me rappelle que je gagnais mes 2 ou 3 000 francs par mois, quoi, avec ça.
Ok.
Donc, je vivais pas comme un nabab, mais pour un étudiant, c'était bien, quoi. Tu vois, sur ces revenus, je me rappelle, j'avais réussi à négocier un prêt étudiant sans caution des parents.
Ouais.
Donc, dans ce sens-là, oui, j'étais un peu original. Je me rappelle mes collègues qui comprenaient pas que je me tape des nuits blanches et des jours fériés à bosser pour ma start-up, pour la start-up dans laquelle j'étais. Bah, j'y croyais, j'étais à fond et c'était plus important ça pour moi que d'aller faire la fête, quoi.
Ouais. Et justement, par rapport à ça, donc tu nous dis que t'étais un petit peu, entre guillemets, la vedette dans la junior entreprise.
J'irai pas jusque-là, mais j'avais une bonne part de marché, on va dire.
Ouais, voilà. Et du coup, pour toi, moi, personnellement, un truc que j'ai pas mal ressenti et pas mal vécu un peu quand même en école d'ingénieur, c'est ce sentiment de te dire, tant que t'es pas arrivé à la fin de tes études, donc on va dire à la fin de la troisième année, parce que moi, c'était une école d'ingé en 3 ans, donc après Mathsup, Maspé, le sentiment de te dire, tant que je suis pas arrivé à la fin de mes études quasiment, je vaux pas grand-chose, je sais pas faire grand-chose. Moi, je me rappelle que le stage de deuxième année, donc l'équivalent Bac plus 4, c'est-à-dire que t'es à un an de finir ton Bac plus 5, ce stage-là, l'équipe pédagogique nous avait dit clairement, écoutez, on va être franc avec vous, ne cherchez pas trop un job dans une boîte parce que ils vont très peu vous faire confiance et cherchez plutôt un job dans une université où là, vous allez pouvoir faire des travaux de recherche. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, par rapport justement aux différents clients qui te contactaient ou qui contactaient la junior entreprise?
Non, pas vraiment, parce que quand ils contactaient la junior entreprise, ils savaient à quoi ils avaient affaire. J'ai pas trop ressenti ce sentiment, peut-être parce que j'avais une assez haute opinion de moi-même et que j'avais une certaine arrogance aussi, j'avais une vraie facilité, je sentais bien que j'étais bon, tu vois, sur les matières majeures de mon école, je majorais souvent la classe, tout ce qui était logiciel, tout ce qui était archi-système, et donc j'avais pas trop de doutes sur ma valeur. D'ailleurs, je me rappelle de ma négo pour rentrer dans la boîte dans laquelle j'étais en stage, j'avais réussi à négocier de très très bonnes indemnités de stage, quasiment un salaire. Et quand j'ai négocié mon premier salaire, j'étais pas là avec le dos de la cuillère. Et, et j'étais prêt à aller voir ailleurs, quoi, parce que je savais que, je pense que, tu vois, avec le recul, je me dis, je pense que je savais que j'avais une certaine valeur de marché qui n'était pas négligeable. Donc, j'avais pas trop eu ce symptôme de ce syndrome de l'imposteur ou cette difficulté à valoriser. Par contre, aujourd'hui, très clairement, le marché, l'état du marché, il est tellement différent de ce qui était à l'époque qu'aujourd'hui, moi, je recommande à, tu vois, mon fils, par exemple, qui a 17 ans, je rage de voir qu'il est doué et qu'il se bouge pas un peu, quoi. Parce que c'est tellement accessible aujourd'hui. D'abord, t'as pas besoin de te bouffer tout un bagage d'ingénieur aujourd'hui pour être développeur. T'en as pas besoin. Après, je pense que ça aide bien à comprendre plein de choses. Mais bon, c'est pas indispensable pour démarrer. Mais aujourd'hui, l'accès à la connaissance est tellement facile que l'accès à la connaissance, l'accès au marché, que se lancer, je pense, est essentiellement une question de détermination, d'envie, de motivation, quoi. Et si jamais je refaisais mes études, mais laisse tomber. En fait, je sais même pas si je les finirais, mes études aujourd'hui. C'est parce qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses à faire. Que peut-être que je me retrouverai happé par autre chose, en fait. Après, aujourd'hui, je recommande à tous ceux qui peuvent d'avoir quand même un diplôme, parce que malheureusement, l'état du marché, il est ce qu'il est, et ça rassure les boîtes, surtout en début. Mais aujourd'hui, on peut faire sa place beaucoup plus facilement qu'il y a 20 ans, quoi.
Mais justement, par rapport à cette facilité d'accès à la connaissance, est-ce que ça a pas l'effet un peu contraire parce que comme la connaissance est accessible de manière beaucoup plus facile, logiquement tout le monde y a plus facilement accès, tout le monde se forme plus facilement et du coup on se retrouve avec une collection de développeurs sur le marché. Alors je dis développeurs mais je suppose que c'est le raisonnement pourrait être le même dans beaucoup d'autres domaines, mais on se retrouve avec une armée de développeurs qui arrivent sur le marché et même si c'est plus facile d'acquérir les compétences nécessaires, on est en concurrence.
C'est-à-dire que la compétition est plus forte aussi du coup.
Ouais, c'est ça.
Oui, tu as raison. Mais je pense que si tu es motivé et déter, tu vas sortir du lot.
Ouais.
Tu vois, moi, c'est très drôle. Là, depuis quelques mois, je vais revenir sur cet épisode blockchain. Je suis vraiment redevenu noob, quoi, junior. Je rentrais dans un écosystème qui avait des codes qui m'étaient complètement inconnus, des technologies qui m'étaient complètement inconnues et totalement différentes de tout ce que j'avais connu avant. Enfin, j'avais tout à réapprendre et je me suis retrouvé littéralement ultra débutant dans ce secteur-là, quoi. Et les premières fois, je me suis pris quelques portes, hein, quand j'ai commencé à contacter des gens du haut de... Voilà, attention, moi j'ai une chaîne YouTube, un podcast, des abonnés, tout ça. Bah ouais, mec, mais tu es sur un marché qui est international, tu discutes avec des Russes, avec des Américains, avec des Indiens... Ton podcast, ils en ont rien ciré. Tout ce qu'ils veulent, c'est ton track record, ton portfolio. T'as quoi à montrer? Ah ben en fait, j'ai rien à montrer. Ah ben écoute, quand tu auras un truc, reviens quoi.
Ouais, d'accord.
Et donc, j'ai pris quelques bonnes baffes comme ça, tu vois, quelques reality checks. Et je me suis dit, tiens, ah ouais, c'est ça que tous les jeunes, là, ils se prennent dans les dents aujourd'hui. Ah ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé quoi. Tout simplement, je me suis bagarré pour trouver des projets. J'ai commencé par me faire la main sur mes propres projets. D'être repassé par là, je me rends compte à quel point on sous-estime la puissance des projets perso, quoi. D'avoir fait un truc ultra basique m'a permis vraiment d'acquérir de l'expérience. Du coup, dès que j'étais en contact avec d'autres personnes pour vendre un petit peu mon début d'expertise, je me suis retrouvé à avoir un vocabulaire beaucoup plus précis, à savoir de quoi je parlais, à dégager quelque chose qui incitait plus à la confiance. Et finalement, au bout de 2 mois et demi, j'ai eu ma première mission. Alors quelque chose d'ultra modeste, et ça m'a permis, voilà, j'ai symboliquement gagné mes premiers euros avec ça. Je peux te dire que je suis encore très très loin de ma REM d'avant quand j'avais mon ESN, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est commencer à construire un portfolio. Donc maintenant, dans mon portfolio, j'ai un projet perso, un projet client, je me suis embarqué dans 2 équipes qui se lancent aussi, et alors oui, par contre, tout ça, c'est sur mon temps, quoi.
Ouais,
c'est à mes frais. Tout à fait, ouais. Mais j'ai aucun doute qu'à un horizon 6 mois, je suis calé sur un projet et que je vais, à un horizon 2 ans, retrouver une REM qui, à mon avis, sera même largement supérieure à ce que je pouvais avoir avant.
Ouais, d'accord. Ok. Et est-ce que, justement,
cette phase d'investissement, j'ai l'impression que les gens le sous-estiment ou que c'est trop dur ou le négligent ou j'en vois beaucoup râler, tu vois, en mode « Ah, j'ai fait mon école, oh là là, la vie, elle est dure maintenant, c'est des gros vilains. » Ben ouais, mais tu as fait quoi pour te bouger? Moi, je suis sûr que quelqu'un qui bosse pendant 6 mois sur son projet perso, qui sort vraiment des choses, qui met en prod, qui chope même 10 utilisateurs, il sort du lot, mais de manière tellement évidente, quoi.
Ouais, c'est vrai que, enfin, je comprends tout à fait ce que tu dis, parce que quand je regarde un petit peu ce que font mes collègues mes anciens collègues de l'école, c'est vrai qu'on se rend compte, en fait. Moi, j'avais un petit peu l'impression, quand je faisais mes trucs dans mon coin, de pas faire non plus des choses extraordinaires, parce que en soi ça n'a rien d'extraordinaire, et c'est juste 2-3 petits projets. Tu te dis bon, je suis passionné parce qu'on apprend à l'école, je vais essayer peut-être de les mettre en pratique le soir ou le week-end. Enfin, je veux dire, ça me paraissait un petit peu logique, mais je me rends compte que c'est pas si logique que ça, et c'est pas si facile que ça, ou si courant d'aller chercher
et,
le.
Et t'as plein de gens qui vont pas faire cet effort-là. Donc oui, tu as raison, la connaissance elle est accessible aujourd'hui en forme de développeur. Et encore, il faudrait se mettre d'accord sur ce que c'est un développeur. En tout cas, il y a des écoles qui promettent de te d'aider à trouver un job de développeur en quelques mois de formation. Donc oui, t'as des sans mauvais jeu de mots, des wagons entiers de gens qui arrivent sur le marché. Mais est-ce que c'est vraiment si difficile que ça de sortir du lot? Je crois pas.
Ouais. D'accord. Ok. Et est-ce que, donc là, effectivement, tu nous as parlé de l'importance des projets personnels, et je pense que ça peut être hyper intéressant de discuter de ça, parce que tu viens de le vivre et je pense que tu es encore un petit peu dedans. Concrètement, est-ce que tu as un plan d'action ou des conseils particuliers par rapport à ça quand tu arrives dans une nouvelle industrie ou dans une nouvelle niche? Que tu pourrais donner justement à quelqu'un peut-être qui vient de finir son école d'ingénieur ou ses études, ou quelqu'un en reconversion qui veut se lancer dans le domaine du développement?
Alors, je sais pas si j'ai des conseils à donner, mais par contre, je peux te raconter comment je m'y suis pris, et peut-être que ça servira ça donnera des idées à des gens. Donc moi, déjà, j'ai eu de la chance de pouvoir me permettre pendant quelques mois de pas avoir la contrainte de rentrer des sous. Donc à partir de, tu vois, du 1er octobre, enfin j'ai même commencé à partir du 1er septembre à pas mal me dédier à ça, à ce que j'ai appelé ma reconversion, en fait. C'est, tu vois, pourtant je continue à faire du dev, mais c'est pour moi c'est une vraie reconversion. Donc la première étape a été pour moi de comprendre les codes, parce qu'en fait l'écosystème de la blockchain est un écosystème extrêmement différent sur plein d'aspects de tout ce que j'ai connu, et j'arrivais là-dedans et je ne comprenais rien à ce qui se passait. Donc, il m'a fallu déjà manger énormément de contenu pour comprendre, juste comprendre. C'est quoi les acteurs? C'est quoi les technos? C'est quoi les cas d'usage? C'est quoi le marché? Comment l'argent circule là-dedans? Quelle est la création de valeur qui se génère? Il y avait vraiment, c'est un milieu qui est extrêmement touffu. Et je pense que quelqu'un qui arrive dans le milieu professionnel, indépendamment de la blockchain, ça va être pareil. Parce que moi, j'ai amené quand même mon bagage d'entrepreneur, on va dire. Mais il y a quand même plein de choses à découvrir. Donc moi, la première phase, ça a été de manger énormément de contenu. La chance que j'ai eue assez vite, c'était de me rendre compte de ce que je voulais vraiment faire. Et moi, ça a été clair assez vite, alors que pourtant, ça fait des années que je me cherche sur plein de sujets. Mais là, ça a été une espèce de révélation. Je voulais être développeur Solidity. Parce que c'est un niveau dans la blockchain qui me plaît énormément, que je trouve passionnant, avec des challenges passionnants. Et ça m'a tout de suite énormément parlé. Et je me suis dit, OK, je veux devenir, à un horizon 5 ans, je veux devenir expert de cette technologie-là. Donc, tu vois, tout de suite, j'ai eu une vision assez claire de là où je voulais aller sur le moyen long terme. Et donc, j'ai mangé beaucoup de contenu. Chemin faisant, j'ai trouvé des choses que je n'avais pas du tout imaginées qui m'ont énormément plu aussi. Mais j'ai trouvé cette espèce de fil conducteur que je suis venu nourrir et à y alimenter de mes trouvailles au fil du chemin. Et puis, une fois qu'il y a eu cette phase-là d'accoutumance, on va dire, au secteur d'activité, j'ai commencé à me former. Et le fait de se spécialiser sur une techno, l'avantage, c'est que du coup, dans tout cette espèce d'énorme écosystème, t'as quand même qu'un bout à attaquer. Et j'ai commencé à me former. Et en même temps que je me formais, j'ai voulu tester le marché. Bon, ça, c'est l'avantage d'avoir un peu de bouteille et d'avoir l'expérience d'entrepreneur. Très vite, j'ai mis un profil sur Match. Je l'ai fait aussi beau que possible, sans mentir. Mais je l'ai fait aussi beau que possible en mettant plus en avant mes 20 ans d'expérience de développeur que mes 2 semaines d'expérience en tant que développeur Solidity. Et ça m'a permis de tester le marché. Alors au début, je me suis pris des grosses portes hein, parce que je connaissais pas le marché. J'ai essayé de vendre des trucs à 50 000 euros qui en valent 5 000 en fait sur le marché. Ouais. Mais voilà. Mais ça, j'ai appris parce que j'ai eu une dizaine de prospects que j'ai échangé et que j'ai fini par comprendre quelle était voilà quelle était réellement la valeur de marché. Et pendant que je faisais ça, j'ai commencé à apprendre concrètement à coder quoi, parce que c'est des technos et des principes très différents. Et là, au bout de 3 mois. Voilà, j'ai eu ma première vraie mission et ça date d'hier, hein, tu vois. J'ai bouclé la mission hier et j'ai gagné 500 balles.
Ok, super.
Ce qui est des mois de travail pour ça, c'est assez ridicule. Mais ça m'a provoqué un plaisir fou et c'est le début. Tu vois, il y a aussi ce truc aussi, je vois des jeunes arriver sur le marché. Les gars, ils arrivent, ils réclament des salaires... 34, 36K, 38K, 40K annuels. Les gars, vous savez rien faire, vous réclamez tout ça. Moi, je gagnais bien plus que 40K annuels, hein, mais dans ce secteur, moi, les premiers projets que j'ai faits, j'ai travaillé pour rien. Ben, en tout cas, pas pour de l'argent. Parce que pour moi, le fait d'apprendre et de construire mon portfolio et construire mon portefeuille d'expérience, c'était largement plus important que l'argent que j'allais gagner. Donc au début j'ai commencé les premiers projets à travailler pour juste pour l'expérience. Je vais pas dire pour la gloire, pour l'expérience. Et ensuite petit à petit ben j'ai trouvé quelques clients et je vais aller crescendo tranquillement. Faut savoir pas être trop gourmand, je sais pas, ça te parle ça ou pas toi ce truc des jeunes, surtout j'ai l'impression que des fois on leur monte un peu le bourrichon. Vous allez voir comme on leur a vendu une formation qui coûte assez cher. Il faut bien leur faire miroiter des choses un peu incroyables. Et la réalité, bah oui, tu pourras l'avoir. Mais au bout de 3-4 ans d'expérience, bah, peut-être pas en sortie d'école.
Ouais, bah oui. Mmh. Ouais, effectivement, ça me parle. Alors moi, ce qui me parle surtout, c'est la partie monter le bourrichon. Où c'est vrai que pendant mes 2 années de prépa, mais là, c'était peut-être sur l'aspect... vous serez l'élite de la France, vous serez, etc.
T'as le droit à ce cours-là, toi aussi.
et nous, on y croyait. Et enfin, moi personnellement, ça a eu un impact bénéfique parce que on me faisait croire que j'allais être l'élite de la France, et moi, j'avais envie de le prouver. Donc ça a eu un impact très bénéfique sur moi. Et puis ça a été une grande source de motivation. Mais c'est vrai que ce discours-là, il continue un petit peu aussi en école d'ingénieur. Et forcément, quand on se retrouve face à son stage de fin d'études ou à sa première embauche, on peut avoir une douche froide. Alors moi, je l'ai pas vécu parce que j'ai pas. Au final, ça fait 1 an que je suis diplômé et je suis jamais rentré dans une boîte à part mon stage de fin d'études. Mais cet aspect bosser pour rien et se dire que je vais bosser pendant, je vais faire des semaines de 70 heures au début pour récolter des miettes, mais je sais, ou en tout cas j'ai de fortes chances que après ça crée quelque chose qui puisse me rapporter beaucoup plus. Ça effectivement, moi je l'avais assez vite compris et je me rends compte en fait que c'est pas une évidence pour tout le monde. Je parle notamment de la chaîne YouTube, effectivement, avec le recul et peut-être encore même aujourd'hui, selon les vidéos et selon les sous-projets, on va dire, que je fais autour, c'est sûr que ouais, tu travailles pour rien au début, mais après ça peut te rapporter plus. Et même si ça te rapporte pas et que t'as pas forcément besoin de plus d'argent, au moins ça t'aura apporté la satisfaction personnelle et d'avoir passé du temps sur quelque chose qui te plaît à 100% et qui te fait oublier de manger le midi et d'aller te coucher le soir, quoi.
Ce qui en soi est déjà top. Hein.
Ce qui en soi est déjà très top, ouais, effectivement. Ok, super. Et donc, du coup, tu nous disais que tout ça, c'est notamment possible parce que tu t'as les moyens, t'as peut-être un petit peu d'argent de côté pour te payer à manger et payer ton loyer. Moi, je me demande si le freelance, est-ce que pour toi, c'est quelque chose, les missions freelance, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui te permettent justement de te dégager du temps pour travailler sur des nouveaux projets personnels qui peuvent éventuellement, comme la blockchain, devenir des projets pro au final. Est-ce que c'est quelque chose qui te sert de support dans un premier temps, ou t'as pas vraiment eu cette réflexion de te dire je vais faire des missions en freelance qui quand même peuvent payer assez bien pour pouvoir travailler peut-être la moitié du temps et puis me dégager un jour sur deux ou deux semaines par mois à travailler sur des projets perso.
Ouais, si, clairement, si tu veux, quand moi j'ai fondé ma boîte il y a 10 ans, même 11, j'ai créé Agilidé en 2010, et il y avait cette idée de financer le développement de produits par le service. Un truc pas original du tout, hein, mais mais par contre, c'était clairement le projet d'entreprise. C'était de dire, je veux un jour développer des produits, bon, il faut de l'argent, il faut des compétences, donc je vais aller vendre mes services, garder de l'argent en stock et financer des projets. Chemin faisant, bah, j'avais démarré sur du conseil et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'aimais, c'était vraiment le dev plus que le conseil. Du coup, je me suis remis à faire du dev et donc du coup à revendre des missions de dev. Et autant le conseil, je ne me voyais pas le faire à plusieurs parce que c'était un métier nouveau, je le voyais comme un solo business, le job de conseil. Autant les jobs de freelance en dev pur, assez vite, je me suis rendu compte que je le partagerais volontiers en fait. J'ai commencé par recruter d'autres freelances et puis après, à un moment donné, il est assez naturellement arrivé l'idée de se dire « bon, est-ce que je recrute et que je commence à construire une équipe ?» Donc c'est le choix que j'ai fait. Avec cette idée toujours de partager le projet de financer des produits par le service. Chemin faisant, ben avec les collaborateurs, on a avancé, on a voilà fait des projets. On a essayé effectivement à trois reprises de développer des produits. On n'y est pas vraiment bien arrivé, mais en tout cas, on a essayé. Et il y a même eu un moment dans la vie de l'entreprise où finalement, comme je me retrouvais à ne plus avoir besoin de produire, puisque j'avais des collaborateurs qui le faisaient pour moi, j'ai atteint ce moment un petit peu de ce qui était un peu un espèce d'idéal dont j'avais pas trop conscience, qui était de pouvoir bosser à mi-temps, voire même moins qu'à mi-temps. Enfin.
D'accord.
Tu vois, pendant le Covid, je me suis retrouvé, pendant le mois là, qui a suivi l'annonce, j'ai bossé moins d'une heure par jour, quoi, tranquille. et c'était pas un souci, si tu veux, ma rémunération a pas varié dans Iota. Et ce jour-là, je me rappelle, c'était il y a 4-5 ans, j'avais atteint ce moment où, en fait, je pouvais aller faire ce que je voulais la moitié de mon temps. Et j'avais toujours cru que ce moment-là, je pourrais aller m'amuser, faire des choses. Mais il y avait toujours une espèce de petite trame de fond qui me disait, ouais, mais est-ce que c'est vraiment du temps bien utilisé? Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais travailler, quoi. J'aimais vraiment mon taf, quoi. Et je me revois faire des tours de maison. J'ai quasiment déprimé, en fait, de me retrouver comme ça, en gros mi-temps, sans rien faire. J'étais un peu déboussolé, un peu perdu. Et partir aller chasser ou aller faire du sport, ouais, pourquoi pas, mais en fait, non, pas comme ça, quoi. Et donc, je me suis remis à taffer avec encore plus de plaisir qu'avant. La différence, peut-être, que je vois est... Ouais, et ta question c'était est-ce que je fais un lien entre l'activité de freelance et me dégager du temps, voilà, comment je me dégage du temps en tant que freelance. Donc ça a été une manière de le faire, je l'ai fait par le fait d'embaucher d'autres personnes, de faire travailler d'autres personnes. Depuis quelques mois, on a arrêté cette activité, donc après une belle aventure de 8 ans, on a arrêté cette activité et je me retrouve maintenant vraiment pleinement freelance à nouveau. Alors comment je vois les choses? J'essaye de faire maintenant des choses qui me passionnent dans mes missions de freelance. Alors c'est un peu con à dire, mais c'est bateau. Et je t'avoue que ces dernières années, dans le job, dans mon ESN, j'avais un peu perdu la flamme. Je faisais ça un peu de manière mécanique. Alors comme ça gagnait bien, ben j'y trouvais mon compte. Mais je peux plus dire vraiment que le job me passionnait en lui-même. Voire même à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que si c'était pas ma boîte, je me serais cassé. En fait, j'aurais démissionné de la boîte parce que le job en lui-même, de super chef de projet avec un petit côté bizdev. En fait, c'est pas ce qui me fait kiffer, quoi.
Ouais, ok. Et justement, par rapport à cet aspect, je peux un peu tout quitter du lendemain, du jour au lendemain. Est-ce que le fait comme ça, donc d'avoir arrêté cette activité où t'avais plusieurs collaborateurs et tu repars un petit peu de zéro. Alors bon, ça fait plusieurs années que tu travailles et que t'as des revenus, donc peut-être que t'as réussi à mettre de côté, t'as réussi à investir, etc., etc. Mais est-ce que tu as encore ce sentiment de te dire, je repars à zéro, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pouvoir continuer à générer des revenus? Et est-ce que je vais pouvoir, bah, avec cette nouvelle activité, qui, d'après ce que tu nous disais juste avant, comme tu découvres un nouveau domaine, tu repars un petit peu de zéro et t'es un peu comme cet étudiant qui vient de terminer ses études et qui doit faire ses preuves. Est-ce que t'as toujours cette peur de te dire, est-ce que je vais réussir à gagner assez d'argent?
Ah, bien sûr. Surtout que, tu vois, j'ai une famille avec 5 enfants, ça fait quelques bouches à nourrir à la maison, et une bonne maison, voilà, il faut payer le loyer, il faut payer les charges, tout ça. Oui, oui, clairement. En fait, j'avais pas trop de doutes, j'avais acquis la confiance que s'il fallait manger, j'aurais de quoi nourrir tout le monde. Mm. C'est ce qui m'a permis d'être presque serein. Par contre, j'avais quand même un gros stress, je sais que je peux être vite malheureux si je prends pas du plaisir dans ce que je fais, en fait. Donc, mon stress, il était plutôt là. Il était plutôt, est-ce que je vais trouver quelque chose qui soit épanouissant pour moi? Et puis même, fondamentalement, est-ce que je vais arriver à me vendre demain? Si tu veux, d'un point de vue technique, j'étais quand même un peu rouillé, quoi. Donc, c'est pas du tout pareil de vendre des projets ou de se vendre soit en tant que développeur. Et du coup, oui, bien sûr qu'il y a eu ce stress. Il a été plus ou moins fort selon les phases. Heureusement, j'avais un petit peu de quoi voir venir. Ça, c'est le truc qui a rendu tout ça possible. Sinon, je pense que je serais déjà allé rechercher un taf. Et maintenant, par contre, j'ai acquis la conviction que oui, c'était bon. C'est-à-dire que après avoir mis vraiment les mains dedans, après être rentré dans l'écosystème, après y avoir mis un peu des sous, après y avoir mis du temps, après avoir rencontré du monde, j'ai acquis la certitude que voilà, l'année prochaine, c'était bon. Là, après, la seule chose que je sache pas, c'est quand exactement je vais pouvoir retrouver une autonomie financière et arrêter de taper dans les réserves. Idéalement, c'était à partir du 1er janvier, mais je me rends bien compte que ça sera peut-être plus tard. Ou si ça se trouve, ça sera déjà mi-décembre, parce qu'il y a des projets qui vont sortir et qui sont assez prometteurs.
Ouais.
Donc, je sais pas exactement quand, mais je sais que ça sera bon et je sais que j'ai assez devant moi pour voir venir ce moment avant que je me retrouve à court de cash.
Ouais, d'accord, ok. Et tu nous as dit quelque chose que je trouve hyper intéressant, c'est j'ai la certitude au moins de pouvoir nourrir ma famille, mais ce sur quoi j'ai peut-être un petit peu plus de doute, c'est est-ce que je vais pouvoir le faire de manière épanouie. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que surtout en tant que dev, ou enfin voilà, moi je suis issu d'une école d'ingénieurs, donc forcément les gens que je côtoie, mes amis, les anciens collègues de cette école, voilà, sont aussi ingénieurs maintenant. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire, avec le bagage technique qu'on a, avec le diplôme qu'on a en France, et c'est valable pour le diplôme d'ingénieur, mais je pense que c'est valable aussi pour beaucoup d'autres diplômes, et même pour ceux qui n'ont pas forcément un diplôme reconnu et qui ont quand même un bagage technique assez solide, c'est très intéressant de se dire, je peux trouver de l'argent avec ma connaissance, je peux réussir à me nourrir et à nourrir ma famille et à me loger, mais est-ce que je vais le faire avec la passion? Et en fait, pour moi, à partir du moment où on a cette certitude, on va dire, bah, c'est quelque chose qui, dans ma vie d'entrepreneur, ou en tout cas quand j'ai la casquette d'entrepreneur, j'essaye de me rappeler de ça et de me dire dans les moments de doute, parce que quand on est entrepreneur, bah, on doute souvent, on se demande souvent si, surtout au début, hein, si on va pouvoir continuer à générer assez d'argent pour bien vivre. Mais au final, j'essaye de me rappeler et de me dire, voilà, j'ai ces compétences techniques-là qui vont me permettre, si jamais demain je veux lancer un projet qui me demande 3 mois et que, comme je m'investis à fond pendant 3 mois dans ce projet-là, bah, tous les autres projets meurent à petit feu. Bon, bah voilà, au pire, si ça marche pas, j'ai toujours ce diplôme-là, j'ai toujours ces compétences qui me permettront au moins de gagner un petit peu d'argent et de repartir, de me faire des réserves et de devoir travailler, de pouvoir bosser en parallèle d'un job s'il faut sur des projets perso le temps que ça redécolle, quoi.
Ouais, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, on vit une époque en tant que développeur où, pour moi, c'est sûr que tu trouves du travail, quoi. La seule question, c'est au bout de combien de temps. Mmh. Et plus tu es expérimenté, plus c'est rapide. Moins tu es expérimenté et plus c'est long. Mais si tu y mets toute ta détermination, toute ton énergie, même un développeur junior, je pense qu'en 6 à 12 mois, il trouve un job, quoi.
D'accord, ouais, ok.
C'est ma vision du marché. Je sais pas si tu. Et je pense qu'un développeur expérimenté qui a plus de 2 à 3 ans, il trouve dans la semaine.
Ouais, et puis si. Enfin, en fait, ce qui est intéressant en disant ça, c'est que si justement il n'y a pas eu de matching et que ce développeur-là, ce profil-là n'a pas trouvé de job, bah, il faudrait peut-être se poser la question de d'où vient vraiment le problème. Et
Oui,
peut-être en fait
c'est
que.
qu'il y a un problème. Ouais.
Voilà, c'est peut-être pas un problème de marché, c'est peut-être pas un problème de compétences, mais c'est peut-être un problème de savoir se vendre ou tout simplement de communiquer. Ou
D'attitude, de
voilà.
niveau d'exigence. C'est sûr que si tu arrives, tu sais pas très bien communiquer, que tu es un peu terne dans tes discussions et que tu es gourmand en plus, bon, bah, tu vas pas trouver grand-chose. Si tu arrives, que tu es dynamique, que tu montres que tu es engagé, que tu es motivé, bah, ça va pas être la même. Tu vois, il y a un truc que je viens d'expérimenter là. Dans la blockchain, tous les projets vont venir émettre leur token sous-jacent, qui va être une manière de, ben de, d'investir dans le projet en espérant que le projet décolle, que ça marche, et qu'un jour tu puisses revendre ton token 10 fois, 100 fois, 1000 fois le prix que tu l'as payé. Tous les projets font ça, tous les projets ont leur token. Et il y avait un projet que j'avais repéré. J'ai pu échanger avec le fondateur parce qu'il cherchait un développeur Solidity. Je savais que moi, j'étais plutôt jeune. Et à un moment donné, je me suis vraiment intéressé au projet et j'y ai cru. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de bosser dans un projet dans lequel je crois. Et parce que j'y crois, bah, je vais acheter des tokens. Et donc, j'ai acheté pour 500 balles de leur token. Et évidemment, bah, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'identifiant transaction. Je l'ai envoyé au fondateur en disant, hey, je trouve le projet génial. D'ailleurs, regarde, j'ai mis des sous. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lundi, il m'a rappelé. Parce que, tu vois, ce que je veux dire, c'est que, et c'était pas manipulatoire, c'était sincère. Ouais, je crois dans le projet. J'ai envie d'y aller. Regarde, voilà, j'y mets un peu de ma couenne, quoi, un peu de mon énergie, un peu de ce capital que j'ai mis patiemment du temps à construire. Parce que je crois dans le projet, mais c'est un super message que tu envoies. Et l'autre, il a envie de t'écouter, de te donner ta chance. Pourtant, probablement, je suis pas le plus qualifié de tous les développeurs qu'il a pu voir, mais je pense que je suis celui peut-être qui est mis le plus en jeu d'entrain, d'énergie, de disponibilité. Et du coup, ben, voilà, j'ai mon ticket, j'ai ma chance pour aller plus loin, plus haut, plus fort, taper, progresser. Et tu vois, ce moment d'y mettre de l'engagement, d'y mettre, bah alors moi là ça a été de l'argent, mais ça peut être du temps, ça peut être, tu vois, cette énergie là. Je pense que je reviens là-dessus. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont conscience de l'importance que ça peut avoir.
Ouais, tout à fait. Et ce qui est assez dingue aussi, c'est que souvent, enfin, j'ai quand même pas mal de témoignages sur Instagram ou YouTube quand j'échange personnellement avec des gens qui me disent, bah voilà, moi après une journée de travail, c'est compliqué d'investir du temps dans un projet parce que peut-être que voilà, j'ai déjà un travail donc j'ai peut-être aussi une famille et surtout en fait l'énergie n'est plus là. Parce que c'est vrai que quand tu veux t'investir dans un tel projet, bah comme tu l'as dit, soit on peut investir de l'argent, soit on investit du temps. Et si on n'a pas d'argent, bah ce qui reste, c'est juste le temps. Mais le temps, il peut être là. Il faut aussi justement de l'énergie à consacrer à ce projet-là, quoi.
Ouais, on a tous, tu vois, on a la première monnaie dont on dispose tous, c'est celle de notre temps, et celle-là, c'est la monnaie qui est la plus équitablement répartie dans le monde. Tout le monde a 24 heures par jour. Après, on n'est pas équitablement répartie dans la génétique. Moi, par exemple, j'ai besoin de minimum 8 heures de sommeil par jour, sinon je suis une loque. Et il y en a pour qui 6 heures, c'est largement suffisant. Mais en dehors de ça, on est équitablement répartie le temps, tout le monde a la même quantité. Donc, il faut du temps. Il te faut de l'argent. L'argent, c'est jamais qu'un moyen d'acheter le temps des autres. Si tu le vois comme une ressource qui permet d'acheter du temps de quelqu'un d'autre, ben, tu vois les choses un petit peu différemment. Et après, il faut de la disponibilité mentale. Ce qui est intéressant avec l'argent, c'est qu'il n'est pas limité. On en fabrique autant qu'on veut. Par contre, tes heures, elles sont hyper limitées. Tu n'en as que 24 par jour, quoi. Et puis, tu reviens pas en arrière, quoi. Autant l'argent, un jour, tu fais des pertes, le lendemain, tu te refais, tu peux gagner, que là, le temps qui est passé, il est passé, quoi. Et donc, sur cette question d'allouer du temps, bah ouais, il faut lui allouer du temps. Il faut lui allouer de l'énergie. Après, j'ai envie de te dire, c'est une question de qu'est-ce que tu veux atteindre dans la vie? Qu'est-ce que tu veux construire dans ta vie? Et si jamais c'est trop dur, bah, adapte les choses. Moi, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai deux activités. celle de freelance développeur Solidity et celle d'infopreneur avec artisan développeur, où je, bah, comme toi, j'ai un podcast, une chaîne YouTube et je fais des formations. Bah, jusqu'à maintenant, je faisais pas trop gaffe à ça parce que j'avais un emploi du temps qui était assez libre et que j'étais pas contraint par de la production moi-même. Maintenant que je redeviens freelance, bah, il a fallu que je prenne une décision et je me suis dit, bon, ok, artisan développeur, vu ce que ça a déjà gagné, vu le potentiel économique, je vais lui allouer 40% de mon temps de travail et pas plus. Et donc, maintenant, je bosse sur ces projets-là un jeudi, un vendredi. Tu vois, aujourd'hui, on est un jeudi parce que les records pour artisan développeur, c'est jeudi. Et il y a cette idée que je lui ai donné une boîte de temps, je lui ai donné une place, et c'est pas plus, ça peut être des fois un peu moins, mais voilà, ça reste dans cette boîte de temps. Mais un salarié, il peut très bien faire pareil. Si aujourd'hui, je me retrouvais vraiment à poil, que j'avais aucune ressource et que soit j'irais chercher à entreprendre, soit vraiment si je devais aller chercher un taf, ben, tu vois, par exemple, je pense que je négocierais un 80%.
Ouais.
Parce que cet espace de temps, il faut se le créer. Alors évidemment, ça pose des contraintes, hein, parce que si tu négocies un 80%, c'est que tu gagnes 20% de moins de salaire. Il faut aussi que tu puisses te le permettre et que tes moyens, enfin que tu en aies le moyen matériel, ou en tout cas que tu adaptes ton niveau, enfin qu'on adapte son niveau de vie. Moi, depuis 3 mois, j'ai clairement mis un énorme tour de vis à mon niveau de vie parce que j'étais en prévision de dire bon, on a des réserves certes, mais plus on va les consommer vite et plus elles s'épuiseront longtemps. Donc, pour pas arriver au moment où j'ai plus d'air, ben on va réduire la consommation tout de suite. On va rationner tout de suite et de manière assez drastique. Ben j'ai baissé mon niveau de vie de 30% à peu près. Finalement, j'ai une gestion de mes finances qui est beaucoup plus saine. Et ça me donne une sérénité de dingue, quoi.
Ouais.
Parce que je sais qu'avec mes réserves, je vais pouvoir tenir beaucoup plus longtemps, voire même avec ce que je gagne en ce moment, j'abonde encore à mes réserves, pour te dire. Voilà. Et j'ai envie de te dire, si tu as envie d'entreprendre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut libérer du temps et de la disponibilité mentale. Si tu fais un boulot de dingue où tu t'impliques à fond, que tu as 8-10 heures par jour de taf, que tu rentres, que tu es cramé et que tu as encore les gamins à gérer, c'est peut-être pas le moment d'entreprendre, quoi. Si par contre, moi je pense qu'il y a des tas de gens qui peuvent facilement libérer au moins 1 heure par jour de travail. Quand tu réfléchis, 1 heure par jour, c'est beaucoup. Réfléchis à tout le temps qu'on perd entre midi et deux, le soir, à regarder des conneries. Moi, j'adorerais hein, passer du temps à regarder des films, des séries ou à jouer à des jeux vidéo, mais j'ai plus le temps, quoi. Enfin, c'est pas que j'ai plus le temps, c'est que j'ai pas envie de prendre ce temps-là.
Oui, c'est ça.
C'est que j'ai des choses qui me passionnent plus. Là, tu vois, j'ai gardé la page. J'attends qu'une chose avec impatience depuis hier soir que j'ai trouvé ce nouveau projet. Il y a un projet de blockchain que je trouve hyper intéressant. Il me tarde de pouvoir aller dévorer la doc, quoi, tu vois. Et ça sera bien mieux qu'une série ou un épisode Netflix, même si j'avoue que de temps en temps, je me laisse séduire par un épisode. Mais je vais pas passer 2 heures, 3 heures par soir à mater des séries, quoi. Enfin, c'est très, très rare chez moi.
Ouais, carrément. Ok, le message est passé.
Super. Non, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses sur ça? Tu trouves que est-ce que tu crois que pour beaucoup de gens, c'est si dur que ça?
Non,
de
non.
Libérer,
ouais, en fait, 10 heures par semaine? En fait, c'est ça. C'est un truc que j'ai beaucoup lu dans les bouquins de développement personnel et que je me suis vu, enfin qu'on m'a beaucoup rabâché. Mais en fait, je trouve que c'est hyper vrai. C'est que la fameuse excuse du j'ai pas le temps, bah, c'est pas une excuse. Et en fait, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est non, c'est pas ma priorité. Et une fois qu'en fait on a compris ça, bah il faut juste se reposer les bonnes questions et se dire que si le soir quand tu rentres t'as qu'une envie, c'est de te poser devant la télé, bah peut-être que monter une boîte, monter une chaîne YouTube et créer un podcast, c'est peut-être pas ta priorité.
C'est pas fait pour toi.
Voilà, c'est ça.
En tout cas pas maintenant, pas en ce moment, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être aussi effectivement une question de période, hein, parce que je veux bien croire que, enfin moi je me rappelle les soirées après les cours où t'as passé toute la journée à essayer de comprendre un cours qui te passionnait pas forcément. Je veux bien croire que le soir t'as envie de faire tout sauf un effort mental. Donc ça, je veux bien le comprendre. Mais effectivement, dans ce cas-là, il faut encore se poser d'autres questions et se demander comment est-ce que je peux trouver non plus ce temps, mais cette ressource mentale.
Ouais, tu vois, moi, je me rends compte. Alors, d'ailleurs, je suis pas sur un rythme très durable et j'en prends conscience aussi. Mais je me pose même pas ces questions, quoi. Quand j'ouvre En ce moment, quand j'ouvre un projet, c'est juste un gamin qui ouvre ses cadeaux le matin de Noël. Et j'ai plutôt le problème inverse, en fait, qui est comment je fais pour me modérer.
Ouais. Mmh.
Comment je fais pour me limiter, pour être sur un rythme durable, à la fois en termes d'énergie personnelle ou de vie de famille. Moi, à titre personnel, le sport m'aide énormément, tu vois. J'ai réussi à intégrer dans ma routine 4 à 5 séances de sport par semaine d'une heure. Je sais qu'à chaque fois que je suis tenté de la skipper, je me dis non, au contraire. C'est justement parce que tu es surchargé et que tu as envie de pas la faire qu'il faut surtout que tu la fasses. Mmh. Surtout que tu la fasses, quoi.
Ok, top. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette deuxième casquette, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, et bon, on arrive déjà à la fin de cet épisode, mais on a beaucoup parlé de ta casquette de développeur freelance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette deuxième casquette d'infopreneur, et est-ce que pour toi ces projets-là, tu les as mis en place pour justement décorréler un petit peu tes revenus de ton temps de travail, parce qu'on parle surtout de ça depuis tout à l'heure, et du fait d'être passionné, du coup de ne plus compter ses heures, mais aussi d'être un petit peu prisonnier, entre guillemets. Alors c'est un mot qui est peut-être un peu trop fort, parce que ça reste quand même une passion, donc la prison c'est pas vraiment la meilleure des comparaisons, mais est-ce que ces side projects de cette casquette d'infopreneur, est-ce que tu les as lancés justement pour te libérer un petit peu plus de temps?
Alors oui et non, c'est-à-dire à la base, artisan développeur, c'était un projet que j'utilisais pour me faire un peu la main, pour mettre en œuvre les concepts marketing que je découvrais.
D'accord.
Dire qu'au début, je crois qu'on doit, j'imagine, partager certains gars qui nous ont bien inspirés. Moi, tu vois, j'ai appris de deux personnes, Stan Leloup et Antoine BM. Mmh. Ces deux-là, voilà, ont pas mal structuré ma manière de réfléchir. Et à un moment donné, à un moment de passer à l'action, on revient sur cette idée de mettre en œuvre, hein, de faire un projet perso. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de mettre en œuvre ces choses-là. À la base, je cherchais juste à vendre mon ESN, hein, donc je faisais du marketing pour mon ESN. Et je ramais bien d'ailleurs. Et puis un jour, je me suis rendu compte que les premiers posts que je faisais sur LinkedIn tapaient surtout dans une audience de dev. Donc je me suis dit, bon, puisque ce qui m'écoute, c'est pas le start-upper qui veut développer son app, c'est plutôt le développeur, ce qui est finalement assez logique parce que je parlais de problématiques de développeurs, qu'est-ce que je peux faire pour leur parler? Là est née l'idée de redévelopper Artisan Développeur, qui était un truc que j'avais lancé une fois sur un coup de tête, qui avait aucune ambition à l'époque quand je l'avais mis sur Twitter la première fois, mais qui avait généré un certain engouement. Donc je me suis dit, tiens, ça a l'air de plaire. Et là, à ce moment-là, au moment où j'avais besoin de m'essayer, quoi, de faire mes classes un peu, mes exercices, je me suis dit, ressort ce projet-là. Et finalement, assez vite, je me suis rendu compte que ça parlait aux gens, que ça plaisait, que j'avais une résonance un petit peu sur LinkedIn. Et là, oui, à ce moment-là, je me suis dit, hey, et si c'était ça mon projet? Et si ça devenait sérieux, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et là, je me suis donné 5 ans pour faire quelque chose de sérieux avec ça. Et je me rappelle, c'était la première fois que je rentrais dans une dynamique aussi lointaine, en fait. J'étais plutôt jusque-là à regarder à très court terme. Et là, je me suis dit, ok, si je m'implique suffisamment là-dedans, à un horizon 5 ans, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. Pour moi, le pas mal, c'était un espèce de chiffre symbolique à 100K par an, tu vois. Et oui, il y avait cette envie de décorréler, alors pourquoi pas plus, hein, si ça venait, mais il y avait cette envie de décorréler les revenus du temps que j'allais passer sur le projet, en étant conscient surtout qu'au début ça allait rapporter beaucoup moins que du travail de freelance à l'heure, mais que ça avait un potentiel de partir sur une courbe exponentielle peut-être un jour, et c'était ça qui m'intéressait et qui me plaisait, ouais. Chemin faisant, le projet a un petit peu évolué, c'est-à-dire cette espèce de vision initiale a bougé. J'ai eu des beaux succès, quelques échecs, en tout cas assez de succès pour que ça me donne envie de continuer. Et effectivement, j'ai produit du contenu pendant bientôt 4 ans, tu vois. Le temps que cet épisode sorte, je pense qu'on sera pas loin de l'anniversaire des 4 ans. Et aujourd'hui, je commence à sentir les résultats là. Alors je les ai sentis tout doucement, mais je sens petit à petit la force de l'inertie qui arrive et ce côté un peu exponentiel qui arrive. Mais c'est vrai que le projet a changé de forme. À la base, c'était un projet très calqué sur les gens que je suivais et dont je m'inspirais, qui étaient très orientés infoprenariat. Mais ça a bougé depuis, si tu veux, le côté infoprenariat est là. Je parle notamment d'artisanat logiciel, de software craftsmanship, de tout ce qui est bonne pratique pour écrire du code durable. J'ai un cursus que j'ai mis au point qui marche bien, qui plaît. Mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'aimais aussi parler d'indépendance, de freelancing. Et j'ai monté, alors d'abord une offre de coaching pour aider les gens à avancer dans leur carrière. Ça, c'est depuis 10 ans, je me forme au coaching professionnel. Donc, c'était l'occasion d'exploiter cette compétence que j'avais pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Et j'ai aussi lancé un cercle de développeurs freelance qui est un cercle restreint dédié uniquement aux développeurs freelance qui sont déjà freelance, pas ceux qui veulent le devenir, ceux qui le sont déjà. Et on grandit ensemble sur plein de dimensions, sur la dimension marketing, commerciale, relationnelle, technique. Et tu vois, du coup, le projet est devenu vraiment, a vraiment plusieurs facettes, quoi. Le côté infopreneur n'est qu'une de ces facettes.
Ouais, d'accord. Ok, super. Et une de mes dernières questions. Donc là, effectivement, on voit que ce projet-là existe en tout cas dans ta tête depuis pas mal de temps. Alors, il a existé sous différentes formes. Tu nous as dit que tu as eu des succès, tu as eu des échecs. Et toute cette histoire-là, vraiment, si on garde la casquette infopreneur et en tout cas, entrepreneur, parce que bon, pour moi, le freelancing, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, ou en tout cas, c'est une forme assez particulière d'entrepreneuriat, parce que disons que dès les premières heures où tu travailles, tu es quasiment sûr de gagner de l'argent, parce que tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc, si on met cette partie-là, freelancing, de côté, et qu'on garde vraiment la partie entrepreneuriale pure et dure, en tout cas, moi, comment je la vois, est-ce que il y aurait une leçon que tu en aurais tirée et que tu voudrais partager à quelqu'un comme toi il y a 10 ans, ou même peut-être il y a 5 ans, mais en tout cas quelque chose que cette aventure-là t'a appris et que t'aurais bien aimé peut-être avoir conscience il y a quelques années au moment où tu t'es lancé.
Tu vois, il y a plein de choses qui me viennent, mais le premier truc qui me soit venu en tête, c'est de dire j'aurais tellement aimé comprendre beaucoup plus tôt à quel point j'avais besoin d'aide. Pour moi, accepter de l'aide a été quelque chose d'assez difficile. Et de savoir aller demander de l'aide, tu vois, d'aller regarder comment les autres font, d'aller demander de l'aide sur tel et tel sujet, c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir fait plus tôt. Tu vois, l'année dernière, je me suis fait accompagner par quelqu'un pour m'aider tant sur le plan coaching que thérapeutique. Ça a été un changement tellement majeur dans ma vie, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt.
Et est-ce que tu englobes aussi le fait de déléguer dans cette aide?
Ça, c'est pour moi, c'est la délégation. Tu vois, dans ton questionnaire que tu faisais passer, c'était intéressant parce qu'il y avait une question sur c'est quoi pour toi la liberté. Je pense que je me suis rendu compte en lisant ta question d'abord que j'étais bien en peine d'y répondre. Il a fallu vraiment que je me creuse la tête et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui avait changé pour moi. Et c'est ma femme qui me l'a fait remarquer parce que donc quand mes collaborateurs ont quitté le projet, ont quitté l'entreprise, on s'est mis d'accord, on en a longuement discuté de comment on allait s'y prendre. Au moment où ils sont partis, j'ai senti un énorme soulagement parce que j'avais tout simplement plus ces charges fixes à faire rentrer quoi tous les mois, cette pression. Et j'ai dit à ma femme, ça y est, je me ressens à nouveau libre. Et elle m'avait dit, c'est drôle parce que il y a 8 ans, quand tu les as embauchés, tu m'as dit la même chose. Tu m'as dit, maintenant qu'ils sont là, je n'ai plus besoin de produire, je me sens à nouveau libre. Donc, tu vois, ce qui est à un moment donné un facteur de liberté peut devenir à un moment donné un poids et réciproquement. Et du coup, sur cette idée de la délégation, que ce soit sous forme de recrutement ou d'embauche, je pense que c'est plus lié à qu'est-ce que tu veux faire, quel est l'objectif que tu veux atteindre et où est-ce que tu veux aller. Si ton projet, c'est de faire un gros truc, alors oui, il faut être plusieurs, donc il faut déléguer. Si ton projet, c'est plutôt comme moi en ce moment sur la partie... Tu vois, artisan-développeur, oui, j'ai besoin de déléguer et trouver des gens avec qui travailler. Et là, je le fais plutôt avec des freelances. Sur le dev solidity, je vais être plutôt dans l'acquisition d'une expertise et donc je vais plutôt aller chercher l'aide de mentors, mais la délégation, pour moi, à mon niveau, fait pas encore de sens.
D'accord.
Et donc, c'est plus une question de projet, de là où tu veux aller, à mon avis, que ça. Moi, quand je te parlais de demander de l'aide, c'était d'accepter de ne pas être tout puissant, c'était d'accepter que on avait besoin vraiment de pouvoir être aidé. Je sais qu'il y a plein de gens pour qui ce n'était pas un souci, Mais pour moi, c'était chargé sur plein d'aspects, notamment psychologiques. Et du coup, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps avec ça.
Ok, super. Bah, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que moi aussi, hein, c'est quelque chose que je me demande aussi assez souvent. Alors, effectivement, il y a cet aspect déléguer les choses qui, pour moi, rentre un petit peu dans le fait de demander de l'aide, parce que c'est aussi se libérer du temps. Mais comme tu disais, c'est hyper intéressant de bien définir ton objectif et de bien comprendre ce qui est pour toi la liberté, si la liberté c'est quelque chose que tu poursuis et qui fait partie de ton objectif, mais en tout cas bien comprendre quels sont tes objectifs pour ne pas se tromper et ne pas prendre le modèle de quelqu'un d'autre pour le tien, quoi.
Bah, c'est bien de prendre des modèles des autres pour comme point de départ, mais après il faut se l'approprier. Tu vois, le modèle qu'on a tous, c'est celui du modèle salarié, qui bosse ses 35-40 heures par semaine, qui bosse pas les samedis dimanches, qui rentre le soir à 18h et qui va embaucher à 9h. Ça, si tu veux, c'est un espèce de modèle préformaté. Et d'ailleurs, je vais te dire, ça fait 10 ans que je suis plus dans salarié, et pourtant, j'y suis encore un peu dans ce modèle-là. Notamment parce qu'il y a, tu vois, la vie de famille me ramène à ça. Tu vois, les samedis dimanches, on bosse pas parce qu'il y a les enfants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des modèles prêts à l'emploi. Et après, tu peux construire le tien.
Ouais, carrément. Ok, super, bah, très intéressant. Très, très intéressant. En tout cas, merci pour cet échange. Très inspirant aussi, hein, personnellement, pour moi. Donc, je pense que ça va inspirer pas mal d'auditeurs. J'aimerais te poser deux petites dernières questions avant qu'on mette fin à cet épisode. La première, c'est est-ce que tu aurais une ressource à partager aux auditeurs? Alors, ça peut être n'importe quoi, hein, un bouquin, une série, un film, un podcast, une appli, peu importe. Mais voilà, quelque chose qui t'a inspiré et que t'aimerais partager avec les auditeurs.
Oh là là, quelque chose, il y en a tellement. Faut que tu m'aides là parce que il y a trop de trucs. Ah, tu vois,
on va partir sur un livre. Je pense que c'est quelque chose qui nous parle à tous et qu'on peut facilement s'approprier.
Tiens, un livre qui est sur mon bureau. Pour les gens qui ont envie de faire carrière dans le côté tech leader, un livre, par exemple, dans les derniers livres que j'ai pu lire, qui m'a bien changé, s'appelle The Manager's Path, le chemin du manager, j'ai trouvé que c'était un très bon bouquin pour comprendre comment tu peux faire carrière dans ce métier de développeur. Et ce que j'aime bien, c'est que comme en plus, ça prend ses origines plutôt dans une culture anglo-saxonne, la carrière technique y est vachement bien valorisée aussi. Et on comprend bien, je trouve, grâce à ce bouquin, le rôle d'un tech lead. Pourquoi un tech lead, c'est pas forcément le meilleur tech de son équipe? C'est quoi le rôle d'un contributeur individuel? Voilà, donc quelqu'un qui veut... tu vois, ça, c'est typiquement un bouquin que je regrette de pas avoir lu en début de carrière, quoi.
D'accord. Ok, top. Bah, je mettrai le lien de ce bouquin dans les notes de l'épisode. Et du coup, deuxième question, est-ce que tu aurais une ou deux personnes, donc en fonction en vue de ce qu'on vient, de sur quoi on vient d'échanger pendant plus d'une heure maintenant, est-ce que tu aurais deux personnes que tu souhaiterais entendre sur ce podcast?
Dans quel but?
Bah pour avoir le même type d'échange et avoir le même type de réponse que toi t'as apporté, enfin voilà, pour comprendre un petit peu quels sont leur parcours, leur vision des choses et leurs objectifs.
Écoute, là je t'avoue que j'ai pas de nom qui me vient en tête, je suis désolé. Je suis un petit peu
sec. Non, mais il y a pas de souci.
Non, là tout de suite, maintenant j'ai pas de nom. Ça part dans tellement de directions dans mon cerveau.
C'est comme les ressources.
Ouais, c'est ça.
Il y a pas de souci. Bah écoute, on skip cette question et du coup, je vais t'en poser une autre. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors bien sûr, je sais, hein, en vue de ton activité d'infopreneur, que tu crées pas mal de contenu. Donc voilà, on va dire que c'est l'instant un petit peu pub. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet et pour éventuellement échanger avec toi?
Alors sur les réseaux, moi c'est Artisan Développeur, ça doit être artisandeveloppeur.fr. Je suis sur Twitter en tant que Art Dev, Art Développeur, et puis Artisan Développeur, j'ai le podcast aussi Artisan Développeur, la chaîne YouTube Artisan Développeur, donc c'est assez facile en général de me retrouver. assez facile à joindre aussi si vous voulez m'envoyer un message. Et toute mon activité blockchain, je la porte sous une, tu vois, j'ai créé un branding différent. Ça sera BIOS 42. Donc, si tu tapes BIOS 42 dans Twitter, tu vas retrouver mon compte et je vais développer ça, cette marque-là, ce nom plus qu'une marque, petit à petit.
Ok, super. Bah, je mettrai encore une fois hein, quelques liens de ces différents réseaux sociaux et des sites dans les notes de l'épisode. En tout cas, merci Benoît, c'était très intéressant d'échanger avec toi. On aurait pu discuter encore pendant pas mal de temps, je pense, mais bon, on a tous les deux des choses à faire de notre côté. Donc peut-être, pourquoi pas, à bientôt hein, sur un deuxième épisode de ce podcast pour voir comment le Benoît a évolué et comment ses projets aussi ont évolué.
Avec grand plaisir. Merci Quentin pour l'invitation.
Merci à toi. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que la discussion vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage et sur vos réseaux sociaux. Ça nous aide à faire connaître le podcast et à inviter encore plus de profils inspirants. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés ou si vous-même vous êtes intéressé pour venir parler de votre expérience de développeur libre sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter à contact@developpeurlibre.com. En tout cas, merci encore et moi je vous dis à la semaine prochaine.